Je vous invite à lire, à faire trois lectures ce matin pour introduire mon message. Trois lectures bibliques. On commence par le psaume 103. Et juste deux versets, les deux premiers versets. Nous l'avons chanté. Mon âme bénit le Seigneur, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Deuxième texte est dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les 16 premiers versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, avec amour, et en vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon « il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre » Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par des hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent, peut fortement tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et ses défis lui-même dans l'amour. Dernier texte, cette fois-ci, les paroles de notre Seigneur Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 36 à 38. Matthieu, chapitre 9, les versets 36 à 38. À la vue de la foule, Jésus a eu compassion car elles étaient lassées et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que dire pour ma dernière prédication, mon dernier message, en tant que pasteur adjoint de l'Église? Quel sujet évoquer avec vous? À vrai dire, dès que nous avons pris la décision d'arrêter, de réorienter mon ministère, donc d'arrêter le ministère pastoral parmi vous, je réfléchissais à quelque chose que je pourrais laisser, une parole que je pourrais vous laisser comme un dernier mot en tant que pasteur. Je me suis finalement arrêté sur un dernier mot qui sera vraiment mon dernier en tant que pasteur adjoint, mais j'aurai l'occasion de vous dire d'autres, j'espère. Je resterai à l'Église, comme l'Église l'a exprimé, l'a souhaité, comme conseiller, membre de conseil, et donc ont cette qualité-là, je pense que j'aurai aussi l'occasion de dire une chose ou l'autre. Et puis une seconde chose peut-être qu'il faut mentionner, c'est que je prêcherai aussi au mois de juillet. Mais ce sera une période estivale. Je pense que c'est le dernier moment où je pourrai vraiment m'adresser complètement à l'Église, même si ce week-end aussi est un week-end un peu spécial où nous avons un bon nombre de frères et sœurs qui sont en déplacement. J'aimerais vous laisser donc un dernier mot. Le dernier mot que je veux adresser à l'Église consiste d'abord pour dire merci. Un dernier mot pour dire avant toute chose merci. Merci bien entendu à notre Seigneur, et cela correspond parfaitement à notre culte de reconnaissance où nous apprenons une fois dans l'année à nous arrêter à faire un culte où nous rappelons de l'œuvre de Dieu à notre égard, de ses bienfaits, pour pouvoir aussi continuer à se tenir et accompagner d'autres œuvres dans leur construction. C'est une manière de ne jamais oublier que le Seigneur a été d'une grande aide à nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans ces lieux et qui ont construit ces locaux. Dire d'abord donc merci, et ça correspond parfaitement aussi à notre culte de reconnaissance. Merci au Seigneur d'abord, au Seigneur qui m'a accompagné dans ce ministère parmi vous. David dit « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il est vrai que les bienfaits du Seigneur sont nombreux à mon égard, en particulier, ils sont nombreux à mon égard, en particulier dans le service que j'ai exercé parmi vous. Les évoquer tous prendrait bien une matinée, donc j'aimerais simplement me contenter de trois bienfaits bien précis. D'abord, dire merci au Seigneur pour son soutien dans le domaine du ministère de la parole, dans le domaine de l'exercice du ministère de la parole. Le soutien du Seigneur a été vraiment remarquable à bien des égards. Il m'est arrivé d'avoir des semaines, en particulier ces dernières années, très chargées. Je pense comme la plupart d'entre vous, en cela, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout normal. Il m'est arrivé d'avoir des semaines bien chargées et pour commencer la préparation de mon message, de ne commencer que samedi, et parfois même samedi un peu tard, voire même après le groupe de jeunes. Mais à chaque fois, le Seigneur m'a soutenu, m'a accompagné et m'a donné quelque chose à apporter à son Église et à son peuple. Je peux vous rassurer que ce n'est pas une question de négligence de ma part. Au début de mon ministère parmi vous, il m'est arrivé mes messages sont presque prêts dès le début de la semaine. Mais avec le temps, il y a des choses qui se rajoutent et des choses que j'ai considérées comme faisant partie de ma responsabilité auxquelles je ne pouvais pas dire non. Et suite à cela, les choses s'accumulent. Et donc, il m'est arrivé de me retrouver presque à la fin de la semaine, fin de samedi, sans avoir préparé mon message. Et quand vous avez bien compris que je ne fais pas partie de ceux qui débarquent un dimanche matin et laissez le Seigneur vous parler, j'espère. Donc, je prends toujours le temps quand même de préparer un peu à l'avance et je crois vraiment que le Seigneur aussi parle par ce moyen-là. Il pourrait y avoir des exceptions. Et ça ne m'est jamais arrivé parmi vous. Ne vous inquiétez pas donc pour vous rassurer que j'ai toujours pris le temps de réfléchir à ce que j'ai à vous dire. J'aimerais vous faire part d'un témoignage tout particulier dans ce domaine. Au milieu du mois de janvier, il m'est arrivé donc de répondre à une sollicitation et je suis rentré samedi soir. C'était un rassemblement de forum des évangélistes. Je suis rentré samedi soir et je savais qu'il me restait à peu près 5 heures de travail pour terminer mon message. J'ai dit, bon, ça pourrait le faire, je dormirai peu, mais ça sera suffisant, de temps en temps, ça m'arrive comme ça. Mais ça pourrait le faire. Sauf qu'arrivé un peu à côté de chez moi, à peu près vers minuit, donc arrivé à côté de chez moi, je vois une jeune fille qui fait le stop pour être conduite chez elle. Nous sommes une nuit de janvier, il faisait très très froid. Cette nuit-là, je crois qu'il faisait autour de entre moins 15 et moins 20 degrés. Je suis passé, mais après, je ne pouvais pas continuer à aller préparer mon message, laissant cette jeune fille au bord du chemin, avec tous les dangers que cela aussi comporte. Et j'étais donc obligé de revenir un peu en arrière et de l'accompagner chez elle. Et j'ai dû perdre, entre guillemets, une quarantaine, voire une cinquantaine de minutes. Donc c'était déjà minuit, donc j'ai commencé à me mettre devant mon ordinateur. C'était autour d'1 heure du matin pour finir mon message. inutile de vous dire d'avoir la pression qui a augmenté d'un cran, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'une fois devant mon écran pour préparer mon message, le Seigneur a été d'une aide extraordinaire. La fatigue, vraiment aucune fatigue, en tout cas pour ce moment-là, aucune fatigue, et les idées étaient très claires, se suivaient très clairement. Et j'étais très heureux le lendemain d'apporter le message, ce que je voulais en tout cas vous dire et que j'assume pleinement dans ce que j'ai dit et qu'il ne faut surtout pas mettre sur le compte de la fatigue ou quoi que ce soit. Je remercie, je veux dire vraiment ma reconnaissance au Seigneur pour cette aide extraordinaire et concrète que le Seigneur nous accorde, en particulier dans les moments exigeants. Je vous rassure, il m'arrive aussi de préparer très bien mes messages tranquillement, dans la sérénité. Mais il arrive aussi dans le ministère des moments comme cela, un peu exigeants. Et dans ces moments-là, la grâce du Seigneur est là pour nous soutenir, pour nous aider, surtout dans l'exercice du ministère de sa parole. C'est pour cela, entre autres, que je veux vraiment dire ici ma reconnaissance au Seigneur, à qui je dois énormément et je dois tout sur ce point. Un deuxième domaine dans lequel j'ai vu le soutien du Seigneur à votre service, c'est dans l'accompagnement, dans le ministère de l'accompagnement. Il m'arrive parfois d'entendre des histoires, enfin des parcours dans l'accompagnement que le Seigneur m'a accordé la grâce d'assurer auprès des uns et des autres, et on me retrouvait face à des situations où je ne savais pas quoi dire ni quelle orientation donner. Et j'étais toujours agréablement surpris comment les quelques paroles qui me venaient à l'esprit, quelques passages de la Bible qui me venaient à l'esprit ont été d'une aide extraordinaire, ont permis des issues vraiment réelles et des situations qui sont complètement élucidées. Et là, s'il y a d'autres situations, malheureusement, devant lesquelles je n'ai pas pu faire grand-chose, mais il y a eu certaines, et pour celles où le Seigneur m'a accordé la grâce d'être utile, je veux lui dire toute ma reconnaissance à cet égard. Un dernier domaine pour lequel je veux dire aussi ma reconnaissance au Seigneur, vous avez compris que cette première partie, c'est vraiment un témoignage plus personnel. Après, je passerai à autre chose. Comme vous vous êtes plaints, en tout cas, il y a certains qui nous disaient, une fois à la réunion d'église, c'était sorti, qu'on ne parlait pas trop de nous, on ne donne pas trop de notre témoignage, ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, je me permets de vous dire un peu plus de quelque chose, un peu de ce que j'ai vécu simplement parmi vous, qui reste toujours du domaine public de toute manière. Un dernier domaine dans lequel je veux dire vraiment ma reconnaissance au Seigneur, dans le témoignage au Seigneur, c'est dans le ministère de direction. Vous savez, il y a parfois des oppositions et des résistances lorsque nous mettons des projets en route dans l'Église. Bien entendu, il faut écouter. Il faut écouter, il faut analyser, recevoir. Si les résistances sont justifiées, il faut les intégrer, il faut corriger sa copie. Il m'est arrivé de corriger la mienne. Et il n'y a aucune difficulté, à mon sens, il n'y a aucune difficulté, en tout cas pour moi, de faire cela, d'enrichir ma copie par les remarques et les réflexions des uns et des autres. Mais lorsque ces résistances ne sont pas justifiées, il faut savoir tenir bon et d'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur ne met à cœur. C'est à lui et à lui fondamentalement que nous devons rendre compte en tant que ministre de la parole de l'Évangile. Je veux dire ma reconnaissance au Seigneur pour toutes ces fois où il m'a accordé la grâce d'aller jusqu'au bout, de tenir bon face à des résistances, qu'elles viennent d'ailleurs de la chair ou qu'elles viennent du diable. Je veux dire ma reconnaissance à notre Seigneur. Exercer un ministère de direction dans le cadre d'une église n'est pas une chose facile. Dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre, il y a des lois qui régissent toutes choses. Mais dans le cadre d'une église, ce n'est pas si facile que cela. Mais là encore, je veux dire vraiment ma reconnaissance au Seigneur pour sa sagesse, son discernement, pour aussi, parfois, peut-être certains diront souvent, pour la détermination qu'il m'a accordée pour aller jusqu'au bout, et de me concentrer sur l'objectif fixé. Les sujets de reconnaissance ne manquent pas à l'égard du Seigneur et pour le soutien qu'il m'a accordé ici parmi vous dans le ministère que j'ai exercé au milieu de vous. C'est plutôt le temps qui manquerait si je commençais à me mettre à énumérer l'ensemble de ses bienfaits. Mais je m'arrêterai là. Un grand merci donc avant tout pour le Seigneur. Un grand merci aussi à l'Église. C'était vraiment une bénédiction de pouvoir vous servir, de pouvoir être parmi vous, de pouvoir être au bénéfice aussi de votre soutien, de vos prières, de votre engagement aussi à nos côtés, de vos encouragements. Merci, un grand merci vraiment. Je suis très heureux d'avoir commencé mon ministère vraiment après mes études ici au milieu de vous, et j'étais vraiment heureux, beaucoup béni aussi par tout ce que j'ai pu vivre avec vous. Donc un grand merci au Seigneur, un grand merci aussi à son Église, à vous qui êtes ici, pour toute la patience, la persévérance, pour l'amour, la tendresse, les encouragements reçus de votre part. Le premier mot donc, merci. Un deuxième mot, c'est pour nous encourager. Deuxième mot pour nous encourager, pour encourager l'Église à l'unité dans la diversité. Vous avez compris que notre Église est une Église diverse, avec une très belle richesse. J'aimerais nous encourager à cette unité. Conserver l'unité est une manière, entre autres, de vivre la vocation pour laquelle nous sommes appelés, la vocation à laquelle, qui nous a été adressée, comme l'apôtre Paul l'écrit dans le texte d'Éphésiens. Quatre domaines dans lesquels je veux nous encourager à chercher à conserver notre unité. D'abord, dans le domaine des relations fraternelles. L'apôtre Paul énumère cinq attitudes que nous sommes invités à développer pour garder notre unité dans le domaine des relations fraternelles. Cinq attitudes. La première, c'est l'humilité d'abord et avant toute chose. Elle est indispensable pour notre unité. Au lieu de regarder les autres de haut, nous sommes appelés au contraire à leur manifester notre respect, notre considération, notre reconnaissance. Au lieu de laisser notre orgueil polluer nos relations, au lieu de laisser notre orgueil prendre le dessus sur nos relations, efforçons-nous d'abord à vivre humblement devant Dieu, devant les autres, et à développer des relations saines avec tous et avec chacun, autant que cela dépend de nous. L'orgueil nous empêche d'aller vers les autres. L'orgueil nous empêche d'aller vers les autres de peur, simplement, ils découvrent nos limites, nos faiblesses, nos fragilités, voire nos défauts. Parfois, en tant que chrétien, nous sommes trop conscients de nous-mêmes et peu conscients de notre Dieu. Nous sommes trop conscients de nous-mêmes, nous avons peur que les autres voient nos défaillances, nos faiblesses, nos limites. L'humilité, au contraire, nous invite à aller simplement vers les autres et laisser nous connaître tels que nous sommes, même avec nos défauts, avec nos limites. Ce sera l'occasion pour eux d'exercer l'amour de Dieu et la patience de Dieu, et pour nous de rester toujours, encore et encore, humbles devant Dieu, mais aussi devant nos frères et sœurs. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous demande de développer pour conserver l'unité de l'Église, dans l'unité de l'Église, notre unité fraternelle dans les relations fraternelles, c'est la douceur. Avec des réponses douces, nous pouvons éloigner la colère, dit le Proverbe 15. Avec des paroles douces, nous pouvons fléchir même le cœur des rois, des chefs, dit toujours le Proverbe 25. Encore avec un esprit doux, nous pouvons gagner le monde entier à Christ. La douceur dans nos relations ne peut que nous permettre d'aller au-delà des difficultés rencontrées, au-delà des obstacles, d'apaiser les tensions, de faire entendre la raison. Troisième attitude que Paul nous recommande, c'est la patience. Face à certaines incompréhensions, nous sommes invités à manifester la patience les uns envers les autres. Tout comme Christ, le Seigneur, a manifesté de la patience envers son peuple dans le passé, mais aussi continue à manifester sa patience envers nous. Si le Seigneur ne tenait rigueur, personne ne pourrait ce matin s'approcher de lui. Aucun d'entre nous pourrait nous approcher du Seigneur. Ce n'est pas toujours simple ni facile d'exercer, de manifester de la patience, mais il nous faut parfois faire des efforts et même parfois de la violence contre nous-mêmes. C'est bien, ça nous aidera dans notre sanctification. N'ayons pas peur de nous faire un peu violence pour exprimer un peu plus la patience, pour aller un peu plus loin que ce que nous avons fait jusqu'ici, que ce que nous faisons d'habitude en matière de manifestation de la patience à l'égard des autres. Cela est nécessaire pour notre unité. Notre unité dépend aussi de la patience que nous pouvons avoir les uns à l'égard des autres. Quatrième attitude qui favorise l'unité dans les relations consiste, qui va aussi dans la même ligne que la patience, c'est supporter, nous supporter mutuellement. C'est ce que l'apôtre Paul souligne ici. Nous supporter, Jésus dit, si vous supportez simplement ce que vous aimez, est-ce que vous avez fait de bien ou d'extraordinaire? Les gens de ce monde font pareil. Nous sommes invités à supporter. Même lorsque certaines choses peuvent sembler insupportables, le Seigneur nous invite à les supporter toujours pour le bien de l'Église, pour favoriser les relations fraternelles. Ce qui n'a pas pu être fait aujourd'hui le sera probablement demain ou après-demain. Il nous faut simplement supporter en attendant. La cinquième et dernière attitude que Paul mentionne ici, c'est le cœur de l'Évangile même, c'est l'amour. L'amour, le fondement de la communauté des croyants, c'est l'amour qui fonde l'Église, la communauté de cette communauté, cette Église qui se forme autour de Jésus-Christ, cette nouvelle société dont il est question dans l'Épître aux Éphésiens, qui est fondée sur l'amour. L'amour est au cœur de la foi chrétienne, est au cœur de la communauté des croyants, de l'Église. Les chrétiens d'origine juive, les chrétiens d'origine païenne ont dû apprendre, grâce à l'amour de Dieu, à se supporter, à s'aimer et à manifester de la patience, de la douceur les uns avec les autres et à être humbles les uns à l'égard des autres. C'est cet amour-là et cet amour-là simplement qui permet, grâce à la croix, de briser ces murs de séparation que des hommes et des femmes, y compris de notre temps, n'arrêtent pas de construire des murs qui séparent. Jésus, à la croix, a brisé le mur de séparation qu'il y a entre les hommes, les juifs et les païens. Et cela, c'est par amour. Et c'est grâce à cet amour que nous sommes frères et sœurs. Accepter la foi chrétienne, devenir un disciple du Seigneur, fait de nous un membre de la famille de son peuple, un membre de son Église. Si de fait, nous ne pouvons pas avoir Dieu pour notre Père sans avoir les frères et sœurs, sans avoir les chrétiens comme frères et sœurs. C'est impossible, parce que je sais que parfois, il peut nous arriver, nous estimer un peu supérieurs aux autres et dire, et passer presque 2-3 ans, voire toute une vie chrétienne sans trouver son Église. Sous prétexte que toutes les églises, il y a toujours des problèmes et les gens ne sont pas si parfaits que ceux-là. Il est arrivé d'entendre déjà cela. Et j'ai dû répondre que le jour où vous trouverez cette église parfaite, c'est vous qui n'allez pas bien, parce que vous n'êtes pas parfait, le problème. Et vous vous rendez compte, si vous avez affaire qu'à des frères et sœurs qui sont parfaits, vous n'allez pas sortir, parce qu'ils vous renvoient toujours vos limites, vos défauts, etc. Donc, heureusement, l'église n'est pas encore parfaite, elle le sera lors du retour de notre Seigneur, mais en attendant cette imperfection, toutes ces difficultés peuvent être vécues, supportées, portées, par l'amour qui est au cœur de la vie de la communauté chrétienne. L'amour au centre de nos relations, pour l'unité, pour notre unité fraternelle. L'amour occupe une place très importante, aussi bien dans le message que dans l'exemple que le Seigneur nous a laissé. J'aimerais donc nous encourager, comme nous l'avons chanté, à laisser l'amour que Dieu répand dans notre cœur par son Esprit Saint, c'est dans Romains 5, l'amour qu'il répand dans notre cœur par son Esprit Saint, laissez cet amour se manifester, laissez cet amour se vivre au milieu de nous et ne pas le retenir. En développant ces cinq attitudes, nous allons conserver, nous allons développer l'unité de l'Église dans ce domaine relationnel. Le deuxième domaine dans lequel nous devons conserver notre unité, c'est l'enseignement de la parole, c'est la doctrine de la parole de Dieu. Et dans les versets 4 à 6 de l'Épître aux Éphésiens, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, l'apôtre Paul appelle à conserver l'unité dans l'enseignement sur les points fondamentaux de la foi chrétienne. Et ces points fondamentaux sont évoqués, il y en a 7. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Lorsque ces points fondamentaux ne sont pas en cause, nous devons veiller à ne pas nous diviser pour des sujets secondaires. Nous devons faire très attention. Hier, nous avons parlé justement au groupe de jeunes sur la fin des temps, sur l'Apocalypse, les chapitres 19 et 20, et évoqué toutes les questions amillénaristes, prémillénaristes sur le retour de Jésus-Christ. Mais ces questions-là sont importantes, mais restent secondaires, ne font pas partie des choses, des questions sur lesquelles nous devons nous séparer dans la mesure où nous retenons les points essentiels. Ici, sur Christ, par contre, en effet, si quelqu'un d'autre vient nous prêcher un autre Jésus que celui annoncé dans l'Évangile, là, nous devons veiller, faire attention et ne pas le recevoir, mais confronter cela dans l'amour, la tendresse, mais à la lumière de la parole de Dieu et sans aucune concession lorsqu'il s'agit des points fondamentaux dont il est question dans la parole de Dieu. Ne laissons pas donc les points secondaires nous diviser, abordons-les avec honnêteté, avec simplicité, avec amour, mais en même temps, gardons surtout les points fondamentaux sur lesquels nous avons ensemble à grandir et à croître dans notre connaissance. Un troisième domaine dans lequel nous devons conserver, garder l'unité, la développer, est celui du service. Et dans ce passage aussi que l'apôtre Paul évoque, parle des dons que Dieu accorde et aux uns et aux autres dans l'Église pour enrichir la vie communautaire. La diversité des dons, la diversité des ministères, la diversité des services que Dieu accorde à son Église sont là pour aider l'Église à grandir, ne sont pas une menace. La diversité parmi nous n'est pas une menace. N'ayons pas peur de la diversité, n'ayons pas peur des dons que Dieu accorde aux uns et aux autres. Au contraire, c'est une richesse. Elles sont là, cette richesse, cette diversité est là pour l'unité de l'Église. Elle est là pour contribuer à l'enrichissement de notre vie avec le Seigneur, de notre vie d'Église. Et c'est cette unité-là qui est nourrie régulièrement par tout ce qu'apportent les uns et les autres avec les dons que le Seigneur leur a accordés. Tous les ministères que le Seigneur accorde à son Église sont là pour atteindre deux objectifs. Le premier, c'est à court terme, c'est qualifier les saints pour qu'eux-mêmes exercent à leur tour le service chrétien. Et le second, qui est à long terme, c'est pour l'édification du corps. Vous savez, les pasteurs, les responsables ne sont pas là pour faire tout dans l'Église. Ils sont là pour équiper l'Église, pour que l'Église, chaque chrétien, chaque frère et sœur trouve sa place et exerce ses responsabilités, exerce le service auquel le Seigneur l'appelle pour permettre au corps, à l'Église, de grandir ensemble, de se développer ensemble. Lorsque l'apôtre Paul parle ici de service chrétien, il ne s'agit pas d'ailleurs des ministères institués, mais il s'agit de ces ministères que, entre guillemets, les laïcs, c'est-à-dire ceux qui ont choisi d'exercer une activité professionnelle, d'exercer et d'accomplir dans l'Église. Donc, il nous faut nous équiper, nous qualifier pour que chacun puisse prendre sa part au service dans l'Église. Les pasteurs, les docteurs, ainsi que tous ceux qui exercent un ministère de la parole dans l'Église sont appelés à former les membres de la communauté, à les équiper pour servir et à les encourager pour jouer le rôle que le Seigneur les appelle à jouer dans le cadre de l'Église à leur place. Certains joueront un rôle plus ou moins visible dans l'Église, mais d'autres vont jouer plus un rôle important dans le cadre, dans la société, dans le cadre de leur travail, auprès de leurs amis ou ailleurs, en dehors de l'Église. Mais dans tous les cas, quel que soit le rôle que le Seigneur nous confie, nous devons le respecter, nous devons l'accompagner dans la prière et nous devons veiller à ce qu'il soit exercé de mieux en mieux. Quatrième et dernier domaine dans lequel nous devons chercher à conserver l'unité, c'est celui justement de la croissance. Le Seigneur a le projet de nous faire grandir. Il n'a pas le projet de nous garder des enfants. Lorsqu'on a un enfant, un bébé, il a besoin de grandir pour qu'il devienne adulte. Une fois devenu adulte, il a besoin d'acquérir la sagesse, tout ce dont il a besoin pour grandir encore, la maturité nécessaire pour avancer. Donc, ne tombons pas dans le piège de notre société de vouloir rester toujours des ados, de rester toujours jeunes. Si dans notre âge, on est ado, il n'y a aucun problème. Il faut vivre son âge. Mais une fois que cet âge est passé, il nous faut grandir, il nous faut devenir matures. Le Seigneur a le projet de nous faire grandir jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Un jour, nous parviendrons tous à cette unité parfaite, à cette connaissance parfaite de Fils de Dieu. Ce que nous avons aujourd'hui comme unité et connaissance, nous l'aurons un jour d'une manière parfaite. Aujourd'hui, notre connaissance de Fils de Dieu est bien limitée, notre unité aussi. Elle a ses limites, mais un jour, nous les connaîtrons d'une manière parfaite. En attendant, nous devons veiller, nous devons grandir ensemble pour que cette unité grandisse de jour en jour, dimanche après dimanche, semaine après semaine, année après année. À l'état adulte, l'Église est appelée à faire des progrès, à devenir de plus en plus mature et à croître de plus en plus dans sa connaissance de Fils de Dieu. Bien que ce soit l'Église dans son ensemble qui est visée ici dans ce passage, il nous faut bien comprendre que la maturité, que la croissance de l'Église dépend de la croissance et de la maturité des membres qui la composent. Si les membres qui composent l'Église sont matures, sont adultes, l'Église sera adulte et mature, mais si les membres restent des enfants, l'Église restera encore enfant. Nous devons donc travailler sur le plan individuel pour la croissance aussi de l'Église. Et d'ailleurs, pour que les membres se sentent individuellement concernés, l'apôtre Paul, à la fin de ce passage, donc au verset 14, il n'emploie plus l'image du corps pour parler de l'Église, mais il emploie le pronom personnel en disant « nous ». Au verset 14, il dit ainsi, « Nous serons plus des tout petits ballottés par le flot, entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par des ruses et des manœuvres des gens. » Il dit « Nous serons ». L'une des caractéristiques des membres immatures, c'est justement cette instabilité doctrinale. Ils ont de vraies lacunes dans l'enseignement. Ils sont toujours indécis, ils ne sont jamais solides, ils n'ont pas de conviction solide. Et souvent, ils accordent le crédit au dernier prédicateur entendu sur Internet souvent, ou encore au dernier livre ou à la dernière brochure lue. Mais non. Moins que ces prédicateurs entendus ou prédicateurs entendus ou la brochure ou le livre lu soit conforme à l'Évangile. Donc, il y a une maturité à laquelle nous sommes invités qui nous permettra d'exercer un jugement, un discernement. Nous devons grandir ensemble spirituellement, croître ensemble dans la grâce de Dieu pour ne pas rester à l'état d'enfant spirituel. Lorsque nous devenons matures, c'est toute l'Église qui devient mature, qui croit, et c'est tout le corps de Christ qui grandit à la stature parfaite de Christ. Je veux donc, comme deuxième mot, nous encourager à continuer, à conserver, à rechercher davantage l'unité de l'Église dans nos relations fraternelles, dans la fidélité à la parole de Dieu, dans les différents services que nous pouvons exercer à l'Église et dans notre croissance spirituelle. Faisons tout cela humblement, simplement, avec patience, dans l'amour. Un mot donc pour dire merci, deuxième pour nous encourager, un troisième mot aussi, un dernier. Et cette fois-ci, ce sera pour vous déranger, sinon je ne serai pas fidèle à moi-même. Un troisième mot pour vous déranger. Je ne veux pas nous laisser conscience tranquille face au manque d'ouvriers pour la moisson. Dans le texte de Matthieu, que nous avons lu, Jésus dit très clairement, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus fait un constat alarmant. Il y a peu d'ouvriers. Visiblement, les choses n'ont pas beaucoup changé, n'ont pas beaucoup bougé. Et pourtant, il y a quelques siècles qui sont passés depuis. Peu d'ouvriers pour faire entrer la moisson dans la maison du Père. Or, pour que la moisson, pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont vécu en campagne, pour que la poisson ne pourrisse pas dans les champs, on a intérêt à la faire entrer. Attends avant que la pluie tombe et que la moisson pourrisse dans les champs. Cela souligne notre responsabilité en vue en particulier du témoignage, de l'évangélisation, de faire entendre la voix de notre Seigneur. Il y a une réelle urgence de faire entendre la voix de l'Évangile. Dans un monde globalisé dans lequel nous vivons, il va falloir rentrer cette moisson et montrer en quoi la foi chrétienne est pertinente. Parce que c'est en cela et en cela seulement que la moisson peut rentrer dans la maison du Père. C'est en cela et en cela seulement que les gens peuvent venir à la foi chrétienne. Vous savez, sur l'argument qui consiste à dire tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents étaient chrétiens, il faut que vous soyez chrétien, ne tient plus la route. Nos jeunes en particulier sont confrontés à longueur de journée à toutes sortes de religions, des amis qui ont d'autres convictions. Il va falloir montrer en quoi la foi chrétienne est plus pertinente, en quoi la spécificité, elle est où la spécificité de la foi chrétienne. Et cela va nous obliger à nous spécialiser, à travailler, à avoir des ministères spécialisés dans le cadre de l'Église, pas forcément de notre Église locale, mais dans le cadre de l'Église en général. Et c'est cela aussi qui a motivé ma décision d'arrêter le ministère pastoral pour me spécialiser en lien avec l'islamologie, mais toujours avec le souci de montrer en quoi il faut devenir chrétien, en quoi la foi chrétienne est plus pertinente que les autres, toutes autres croyances, d'ailleurs qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs, et aussi les croyances non religieuses, qui ont le vent en poupe également, en particulier dans notre société occidentale. Nous devons faire donc tout ce qui est en notre possible pour faire entrer cette moisson. Et pour la faire entrer, il nous faut nous engager sérieusement et prendre notre part de responsabilité. Dans notre quartier, parmi nos amis, les membres de nos familles, parmi les collègues de notre travail, il y a certainement des personnes qui n'ont pas encore répondu à cet appel de Dieu et auxquelles il nous faut faire entendre cet appel de Dieu, cette invitation de notre Seigneur. La question que nous pouvons nous poser est de dire: que pouvons-nous faire pour aider nos amis à parvenir à la connaissance de Christ? Que pouvons-nous faire pour les aider à parvenir à la foi, pour être au salut, pour être au bénéfice de salut, ce salut que Dieu donne encore généreusement jusqu'au temps du jugement? Parce qu'il y aura un temps de jugement, et c'est ce que nous avons vu aussi avec les jeunes hier en travaillant sur les textes de l'Apocalypse. Quel est le rôle, quel est notre rôle à chacun dans cette moisson que Dieu a en réserve? Quel est votre rôle? Quelle est votre responsabilité? Quelle est notre responsabilité? Et c'est à chacun de réfléchir à cette question. Et j'aimerais, s'il y a une question que j'aimerais vous laisser, c'est de vous poser la question ce soir, demain, après-demain, et pas simplement sous l'effet de l'émotion, mais en tranquillement, en quoi, quelle est ma responsabilité et en quoi je peux prendre part à cette moisson. Le manque d'ouvriers ne concerne pas simplement la moisson de d'or, mais aussi, hélas, ça concerne également la maison du Père. Il y a peu de bergers, peu d'ouvriers pour prendre soin aussi des brebis qui sont entrées dans la bergerie. Et Dieu nous invite aussi, là aussi, à prendre part. En d'autres termes, il y a un réel besoin pour que des personnes se forment pour prendre soin de l'Église, pour prendre soin des brebis, pour aussi faire entrer celles et les brebis qui n'ont pas encore répondu favorablement à l'appel de notre Dieu. Nous sommes reconnaissants pour la nouvelle équipe pastorale que nous avons trouvée. Le Seigneur a conduit toutes choses et nous nous réjouissons pour cela, de les accueillir. Mais nous devons savoir qu'il y a beaucoup d'églises sans pasteur dans, par exemple, notre famille d'église, dans les églises de l'association. Et nous sommes bien placés, puisque Thierry, qui préside notre association d'église, nous fait part, de temps en temps, de tant de pasteurs qui manquent. Et vous savez, les pasteurs, si on veut avoir des pasteurs dans 4 ans, 5 ans, il faut les envoyer, les former maintenant. Il ne faut pas attendre 4 ans. Et parce que dans 4, 5 ans, il y a toute une génération de pasteurs qui va partir à la retraite. Qui va prendre soin de l'église de Jésus-Christ? Vous avez remarqué que l'équipe pastorale, le renouvellement, ne sont pas issus des nôtres, pas de notre famille d'église. Nous sommes très heureux d'être au bénéfice du corps de Christ plus globalement, plus généralement. Mais nous devons quand même réfléchir sérieusement si le Seigneur ne nous appelle pas à le servir, à se former pour le servir. Vous savez, il y a un petit regret que je vis, enfin que je ressens dans ce ministère exercé, en particulier auprès des jeunes et des jeunes adultes. J'ai vu des générations de jeunes et jeunes adultes passer, grandir, mais aucun d'eux n'a pensé, n'a réfléchi, ne s'est dit, ici je me formais pour devenir pasteur. Je me suis dit, probablement je ne leur donne pas envie, mais ceci dit, nous avons eu aussi d'autres pasteurs de passage. Voilà. J'étais frappé de voir, par exemple, nos jeunes, lorsqu'ils se préparent pour le bac, et je les encourage à fond pour travailler, ils ne se posent, lorsqu'ils font les choix, ils ne se posent jamais la question, et peut-être être pasteur, ça, vous savez, ça fait partie des options possibles, être pasteur et servir le Seigneur. Mais il n'y a pas que les jeunes. Les moins jeunes aussi peuvent être concernés par ce que je suis en train de dire. Il y a la moisson à l'extérieur, mais il y a aussi des bergers, nous aurons besoin des bergers. Et les bergers, il faut les former. On ne s'invente pas, on ne s'improvise pas docteur du jour au lendemain. Ceux qui ont fait des études de médecine, il leur faut au minimum 7 ans, sinon 9 ans avec les nouvelles réformes. Voilà, pour être berger, pour prendre soin du troupeau de Dieu, il faut au minimum 4 ans, 5 ans de formation. Donc c'est à chacun de réfléchir et c'est la question que j'aimerais nous laisser ce matin. J'aimerais vous laisser ce matin. Pour ceux qui veulent simplement servir tout en exerçant leur activité professionnelle, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Il y a des formations qui sont données, des formations partielles ici ou là, et nous serions très heureux de vous orienter si vous le souhaitez. Il nous faut laisser ce constat du Seigneur nous déranger dans notre confort personnel et de voir comment répondre à cet appel. Face à ce besoin d'ouvrier, le Seigneur nous laisse une recommandation pressante en disant « Priez, priez le Seigneur de la moisson ». Face au manque d'ouvriers, le Seigneur nous invite à prier. La moisson est grande, elle est prête. Sommes-nous prêts à la faire entrer dans la maison du Père? Sommes-nous prêts à prendre soin de cette moisson? Si sommes-nous prêts à dire au Seigneur comme Isaïe l'avait fait avant nous, « Me voici Seigneur, envoie-moi » et dans Isaïe chapitre 6. Pour ma part, très modestement, je prendrai la responsabilité que le Seigneur voudra bien me confier, aussi bien parmi vous qu'au-delà, et je veux compter sur ses grâces, sur ses ressources, pour m'aider à les assurer, les assumer en toute humilité et en cherchant toujours, avant tout, sa gloire. Et vous, êtes-vous prêts à vous engager là où il vous appelle, avec les dons qu'il vous confie? Êtes-vous prêts à réfléchir pour une fois, à vous poser aussi la question de votre confort? Posez la question. Mais bon, si vous posez la question, le Seigneur risque de répondre. Mais posez-la, je vous encourage à poser cette question. Êtes-vous prêts à aller dans ces champs et pour récolter la moisson? C'est cela que j'aimerais vous laisser cela. Et sur ce point que j'aimerais vous inviter à prier, pour cela je vous invite à vous lever. Nous allons terminer par prier ensemble, demander au Seigneur de nous utiliser là où nous sommes, jeunes et vieux, jeunes et moins jeunes. Le Seigneur peut nous utiliser, ne serait-ce que dans la prière, l'intercession. Nous pouvons tous prendre du temps pour prier, pour porter l'œuvre de Dieu dans la prière. Mais nous pouvons aussi aller au-delà de la prière. Et j'aimerais que nous prions à présent pour demander au Seigneur sa direction. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as donné de vivre ensemble au cours de ces dernières années, au cours de cette dernière année. Et notre culte de reconnaissance, nous voulons nous rappeler de tes grâces, de tes bienfaits, de tout ce soutien, de toute ta générosité. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais pour notre Église, pour tous ceux qui nous ont rejoints, tout ce qui marche, la croissance que tu nous as accordée, l'unité que tu nous as donnée jusqu'ici. Nous te bénissons, nous te louons pour les ministères, les services de nos frères et sœurs, l'engagement de nos frères et sœurs, aussi bien parmi les enfants, la diaconie, parmi la jeunesse, ou encore, Seigneur, dans d'autres domaines de la vie de notre Église. Nous te bénissons et nous te louons, notre Dieu, notre Père. Mais nous aimerions encore, ô Seigneur, nous placer devant toi, te demander, s'il te plaît, de nous guider, de nous diriger, de nous montrer là où tu veux nous voir te glorifier, là où tu veux nous voir prendre part à cette moisson que tu veux faire entrer dans ta maison, là où tu veux nous faire prendre part dans les soins que nous devons apporter à ton peuple, à nos frères et sœurs dans l'Église. Nous voulons compter sur la grâce de ton Esprit. Nous voulons compter sur la grâce de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons compter sur ton soutien pour être là où tu veux nous voir, à la gloire de ton nom et pour le bien de ton peuple et pour le salut de notre monde. En Jésus-Christ. Amen.